un taux de...
Merci bien sûr Victor et Joseph pour leur intervention. Donc l'objectif est de faire une sorte de synthèse, en tout cas de vous donner le maximum d'éléments de compréhension par rapport à la nouvelle molécule qui va vous être utile, je pense, et surtout être utile à vos patients pour le traitement de l'hépatite C. Donc Victor et Joseph vont essayer d'articuler plus leur présentation sur les patients usagers de drogue, sachant qu'aujourd'hui, on va beaucoup non plus de données, on va découvrir ensemble un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci.
Voilà, donc merci à la voix de MSD pour leur invitation à ce symposium. Donc on va essayer de parler du Voltaprevir, Victrelis, si ça fonctionne. Ça ne marche pas, Olivier. Ah voilà, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Donc en fait, je vais vous parler rapidement des essais de phase 3 donc, qui ont mené à la mise sur le marché du Voltaprevir. On va parler des essais chez les patients naïfs et chez les patients pré-traités. Donc chez les patients naïfs, alors ça c'est un peu rébarbatif, mais c'est important comme diapositive parce que ça va induire le concept de ce qu'on appelle la phase initiale de bithérapie. En effet, tous les schémas qui ont été étudiés avec le Voltaprevir ont inclus une phase initiale de 4 semaines de bithérapie avant l'inclusion du Voltaprevir. Donc il y a un schéma à 48 semaines, grosso modo, donc de PIB plus bithérapie plus Voltaprevir. Un schéma à 28 semaines qui a été testé versus donc, le schéma thérapeutique standard de bithérapie à 48 semaines. Donc chez les patients naïfs, donc chez les patients naïfs, vous avez à gauche donc les résultats qu'on obtient chez les patients non afro-américains, c'est-à-dire grosso modo que ce soit dans le bras de traitement guidé par la réponse, donc dans le bras éventuellement à 28 semaines, parce que dans le bras à 28 semaines, c'est uniquement si les patients sont négatifs à la semaine 8, donc on a 60% de réponses virales soutenues chez donc, les patients versus 42% dans la bithérapie. Donc on a un gain de 30%. Alors autre chose qui est importante, c'est que si vous avez une réponse initiale à la bithérapie qui est significative, c'est-à-dire si vous avez une baisse de plus de 1 log après 4 semaines de bithérapie, vous avez 80% de guérison. Si vous faites partie de ce qu'on appelle les répondeurs nuls, c'est-à-dire qu'après 4 semaines, vous avez une baisse inférieure à 1 log, vous avez quand même une réponse significative en trithérapie, 30% dans le bras qui peut inclure un bras court et 40% dans le bras de 48 semaines. Donc ça veut dire que même chez ceux qui sont considérés comme répondeurs nuls, on a une réponse significative en trithérapie. Alors évidemment, même chose chez les patients qui sont répondeurs à la 8e semaine, c'est-à-dire après 4 semaines de trithérapie en plus de la PIB. Chez les patients qui sont répondeurs donc à la 8e semaine, on a des réponses virales soutenues très importantes, de l'ordre de 90%, aussi bien chez les patients qui sont traités 6 mois que chez les patients qui sont traités 1 an. Par contre, ces taux de réponse diminuent à droite chez les patients qui répondent plus tard, c'est-à-dire après la 8e semaine. Alors, selon le score de fibrose, on voit que chez les patients qui ont une cirrhose sévère F3-F4, on a d'une part des taux de réponse moins importants et surtout, on a des taux de réponse qui varient en fonction de la durée du traitement. C'est-à-dire que clairement, chez les patients qui ont des fibroses sévères, on a probablement intérêt à les traiter 48 semaines puisqu'on a un gain de plus de 10% dans les bras 48 semaines par rapport aux bras guidés par la réponse. Enfin, ça c'est le chiffre des patients qui pourraient bénéficier d'un traitement court, c'est-à-dire les chiffres des patients qui sont répondeurs à la 8e semaine. On a 60% de patients qui sont répondeurs à la 8e semaine et qui pourraient donc bénéficier d'un traitement raccourci. Ça c'était les essais chez les naïfs. Maintenant, chez les patients déjà exposés à la bithérapie et qui ont été non répondeurs partiels ou rechuteurs à un précédent traitement, On a les mêmes schémas thérapeutiques, donc 4 semaines de ce qu'on appelle la PIB, suivie d'une trithérapie pendant 28 semaines ou pendant 44 semaines. Même chose, on obtient une augmentation significative des taux de réponse chez ces patients, qui est de l'ordre de 60 à 70% par rapport aux patients traités en bithérapie. Et selon la réponse à la semaine 24, donc les patients qui répondent bien à la semaine 4, c'est-à-dire qui ont plus d'un log de diminution en bithérapie, répondent très très bien à la trithérapie, plus de 70%. Par contre, ceux qui répondent moins bien à l'interféron ribavirine après 4 semaines ont des taux de réponse moins importants, mais qui restent tout à fait significatifs, avec 30% quand même de réponse virale soutenue chez ces patients-là. Donc ça, selon la réponse à S8 aussi, plus vous avez de réponses rapides, donc si vous êtes répondeur à S8, vous avez plus de réponses virales soutenues que si vous êtes non répondeur à S8 et que la réponse arrive plus tardivement, mais on garde quand même des taux de réponse significatifs, même si vous êtes répondeur plus tardivement. Toujours en fonction du score de fibrose, donc on se retrouve avec des taux de réponse qui sont moins importants, surtout si on fait des traitements plus courts. Et donc on revient à la notion du traitement prolongé de toute façon chez les patients qui ont une fibrose sévère ou une cirrhose donc de 48 semaines. Enfin, on constate également chez les non-répondeurs à un traitement antérieur un gain par rapport à un traitement plus long de trithérapie par rapport à un traitement éventuellement plus court, donc 52% versus 40%. Donc probablement un intérêt à les traiter d'emblée, à décider d'emblée qu'on va les traiter plus longtemps. Ça, c'est l'essai qui a testé le bocéprévir avec l'interféron pegylé alpha-2A, les essais antérieurs ayant été réalisés avec l'alpha-2B. Donc il s'agit aussi d'un essai chez des patients génotypés en échec à un précédent traitement, avec toujours la période initiale de bithérapie et le traitement de 48 semaines suivi d'une période d'observation. Et on observe à peu près les mêmes chiffres qu'on observait avec l'interféron alpha-2B, c'est-à-dire que en fonction de la réponse à S4, on a 70% de réponse virale soutenue chez les patients répondeurs à S4, et en fonction de la réponse antérieure, on a 70% de réponse virale soutenue chez les rechuteurs et 47% chez les répondeurs partiels. Donc une efficacité avec l'interféron pegylé alpha-2A qui est similaire avec celle qu'on observe avec l'interféron pegylé alpha-2B. Ça, cette diapositive va vous être présentée par le professeur de Lédingan, donc c'est le schéma de l'AMM, il va vous en parler, je ne m'attarderai pas. Concernant les interactions médicamenteuses, donc la question qui se pose maintenant, notamment pour les patients usagers de drogue, qui peuvent être soit substitués, soit co-infectés et traités par des traitements VIH, le problème des interactions médicamenteuses est assez crucial. Donc on a plusieurs types d'interactions médicamenteuses possibles. Donc on a la possibilité que le bocéprévir exerce un effet inhibiteur sur certains cytochromes qui permettent la métabolisation d'autres médicaments et qui donc entraîne une augmentation des concentrations de ces autres médicaments avec un possible effet toxique si l'index thérapeutique est T3. Donc par exemple la méthadone fait partie des médicaments qui sont métabolisés par ce cytochrome P3A45 que le bocéprévir inhibe. On a des médicaments pour lesquels des concentrations plasmatiques élevées peuvent être associées à des événements graves et qui sont contre-indiqués formellement, le midazolam, le triazolam, le bépridil, pimosid, lumefantine. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais enfin ça c'est les médicaments qui sont interdits avec le bocéprévir. D'autres médicaments imposent des précautions d'emploi, ce sont tous les médicaments qui allongent le QT, dont la méthadone, dont aussi le ritonavir et le tenofovir. Ce ne sont pas des médicaments interdits, mais ce sont des médicaments qu'il faut donner concomitamment sous surveillance. Donc concernant la méthadone, On n'a pas de données, je dirais, définitives sur l'interaction Bosé-Prévir-Méthadone. Les données vont sortir au premier trimestre 2012. Théoriquement, le Bosé-Prévir pourrait faire augmenter la méthadonémie des patients. Il faudra donc être prudent au départ, soit doser la méthadonémie après le premier mois de traitement, soit adapter en fonction de la clinique. Donc il faut être prudent lors de l'instauration du Bosé-Prévir et lors de l'arrêt du Bosé-Prévir. Un autre type d'interaction médicamenteuse, c'est l'interaction inverse, c'est-à-dire le Bosé-Prévir pouvant induire une métabolisation plus rapide de certains médicaments et donc en diminuer les concentrations, dont par exemple l'éthinyl-œstradiol. Et là, il faut faire attention chez les femmes qui ont des contraceptions avec l'éthinyl-œstradiol. Enfin, à l'inverse, d'autres médicaments peuvent inhiber théoriquement le métabolisme du Bosé-Prévir et induire une augmentation des concentrations avec peut-être une majoration de la toxicité, mais on sait que le Bosé-Prévir a plusieurs voies de métabolisation et il ne semble pas y avoir d'interaction majeure. Il faut simplement se méfier des macrolides, du kétoconazole et de l'itraconazole. Concernant les médicaments VIH, donc, nous n'avons pas actuellement les données définitives sur les interactions avec ces traitements. Ces données sont en cours d'évaluation et seront probablement disponibles en début d'année. Concernant les antiprotéases boostées par le ritonavir, en théorie, il n'y a pas d'interaction cliniquement significative. Cependant, dans l'attente des résultats complémentaires, une attention particulière est recommandée si le Bosé-Prévir est administré conjointement avec des inhibiteurs de protéases. Concernant le raltegravir, sur la base de données théoriques, aucune interaction cliniquement significative n'est attendue, mais une fois de plus, on attend les données complémentaires. En ce qui concerne le tenofovir, il ne semble pas y avoir de nécessité d'ajustement. Concernant l'efavirenz, les concentrations plasmatiques du Bosé-Prévir peuvent être réduites par l'efavirenz, et donc l'efficacité du Bosé-Prévir peut être diminuée théoriquement par l'efavirenz. En pratique, concernant ces interactions médicamenteuses, il faut évaluer soigneusement les comédications. Il faut arrêter ou remplacer les médicaments chez lesquels on peut s'attendre à une interaction significative. Sinon, à ce moment-là, on contre-indique le traitement ou on traite moyennant une surveillance spécifique. Et il faut absolument donner aux patients une liste des médicaments interdits sous Bosé-Prévir pour éviter des accidents. En pratique, le Bosé-Prévir se donne, donc il s'agit d'une gélule, un dosage unique d'une gélule de 200 mg. La dose est de 800 mg, soit 4 gélules 3 fois par jour, à prendre à des intervalles de 8 heures, mais qui peuvent varier entre 7 à 9 heures. Alors, en cas d'oubli de prise, ce n'est pas un problème important. Ça n'interférera pas trop sur l'efficacité du traitement. On peut quand même prendre sa dose et reprendre la suivante avec les horaires habituels. En ce qui concerne l'impact de l'adhérence sur la réponse virale soutenue, on voit que ce qui est important, c'est la durée du traitement. C'est-à-dire, si on réduit la durée du traitement, donc ici à moins de 80%, là, on a clairement une diminution de l'efficacité du produit. Par contre, si on respecte la durée totale du traitement, même si on oublie quelques doses, là, on est à moins de 80% des doses sur une durée de traitement de plus de 80%, on n'a pas d'impact sur l'efficacité en termes de réponse virale soutenue. Bon, la surveillance est un peu superposable, c'est de la bithérapie. Il faut un bilan mensuel, des visites toutes les 4 semaines au début qui peuvent s'espacer par la suite. Les règles d'arrêt de traitement sont la présence d'un ARN supérieur à 100 unités à la 12e semaine, incluant la période de PIB, et la détectabilité de l'ARN à la 24e semaine. Donc ça, c'est des arrêts pour inefficacité. En ce qui concerne la tolérance, grosso modo, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves ou d'arrêt de traitement dû aux effets indésirables de la trithérapie par rapport à la bithérapie. Alors, on a des effets secondaires qui sont plus fréquents avec la trithérapie, essentiellement l'anémie, la dysgeusie, dans une moindre mesure la diarrhée et la neutropénie. Le problème principal, c'est l'anémie. Donc, effectivement, on a nettement plus d'anémie en trithérapie qu'en bithérapie, 20% de plus de taux d'hémoglobine inférieur à 10, mais qui n'entraîne pas plus d'arrêt de traitement ni d'événements indésirables graves. Si on étudie l'impact de l'anémie sur la réponse virale soutenue, on constate que les patients qui font une anémie n'ont pas moins de réponse virale soutenue en haché ici que les patients qui n'ont pas d'anémie. Et si on étudie les patients anémiques, notamment ceux chez qui on a éventuellement baissé les doses de RIBA ou donné de l'EPO et baissé les doses de RIBA, on constate qu'il n'y a pas moins d'efficacité que chez les patients non anémiques. Donc l'anémie n'entraîne pas une diminution de l'efficacité traitement. Donc quand on a une anémie qui s'installe ou quand on est obligé de prescrire de l'EPO, à ce moment-là, on surveille la numération toutes les semaines. Donc le profil tolérance du bosfoprévir est compatible avec une utilisation pratique courante. Chez les patients cirrhotiques, il faut quand même faire un peu plus attention, notamment sur la surveillance clinique, biologique et hématologique qui doit être peut-être plus rapprochée. Pour conclure, chez les malades naïfs, Victrelis en trithérapie était associé à un taux global de réponse virale soutenue jusqu'à 71%, un taux de réponse virale soutenue de 82% quand la baisse de charge virale est supérieure de 1 log à la fin de la PIB, donc après 4 semaines. Un projet de traitement en cours chez 60% des patients, donc de 28 semaines, et un arrêt de traitement à la semaine 24 chez 27% des patients. Chez les patients en échec thérapeutique, le taux global de réponse virale soutenue est jusqu'à 67%, un taux de jusqu'à 79% quand on a une charge virale qui baisse de plus d'un log à la fin de la PIB, et une durée raccourcie de traitement de 36 semaines chez 46% des malades. Et un taux de RVS jusqu'à 52% chez les malades rechuteurs à un traitement antérieur. Alors, pourquoi la phase initiale de bithérapie, cette fameuse PIB? Cette phase initiale de bithérapie a plusieurs avantages. D'une part, les 4 semaines de phase initiale, en réduisant la charge virale du VHC, pourraient réduire le potentiel de résistance chez les patients répondeurs à l'interféron et à la ribavirine. Par ailleurs, les 4 semaines de phase initiale permettent probablement l'évaluation de l'adhérence et de la tolérance du patient au traitement avant l'ajout de l'inhibiteur de protéase. Ça, c'est une étude qui a été faite donc, chez des usagers de drogue en haut, donc par rapport à des patients en contrôle en bas. Ce sont les arrêts de traitement. Donc, vous constatez que chez les patients contrôle, les arrêts de traitement augmentent de manière progressive jusqu'au 4e mois, puis se stabilisent. Chez les patients usagers de drogue, on a les arrêts de traitement qui montent en flèche les 2 premiers mois, puis se stabilisent. Notamment les arrêts de traitement dus ici à la non-observance du patient ou à la décision du patient d'arrêter lui-même ses traitements. Donc c'est particulièrement intéressant d'avoir cette phase de PIB chez ces patients usagers de drogue parce qu'on va pouvoir rapidement, après les 4 semaines de PIB, savoir quels sont les patients qui vont pouvoir continuer le traitement dans des conditions acceptables de sécurité et d'efficacité. Et ça nous évitera d'exposer aux antiprotéases et éventuellement de coller une mutation de résistance des patients chez qui on va détecter dans le premier mois que ça ne va pas aller, qu'on ne va pas arriver finalement au bout du traitement. Voilà, donc pour conclure, la trithérapie permet un gain de réponse virale soutenue de 28 à 45% par rapport à la bithérapie chez les patients génotype 1, réduction de la durée de traitement à 28 semaines chez la majorité des patients naïfs. La PIB est utile pour évaluer la sensibilité et la tolérance à l'interféron et les effets secondaires sont similaires à ceux observés avec la bithérapie en dehors d'une fréquence plus élevée d'anémie et probablement plus élevée d'utilisation de PO. Je vous remercie. Pour l'instant, il faut être prudent. Alors, on va avoir au premier semestre 2012 des données qui vont sortir sur l'interaction bosfoprévir-méthadone, où on verra ce qui se passe chez les patients en termes de variation de la méthadonémie. Parce que, bon, on peut avoir une augmentation de la méthadone, mais le cytochrome P3A45, là, n'est pas la seule voie de métabolisation. Il y a d'autres voies. Le bocéprévir peut aussi agir sur d'autres voies. Donc, la résultante, finalement, de ces interactions, on ne la connaît pas jusqu'ici. On a vu qu'il y a des molécules, une même molécule peut entraîner chez certains patients une stabilité de la méthadone, chez d'autres une augmentation, chez certains une diminution. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, donc pour l'instant il faut être extrêmement prudent, notamment vis-à-vis du QTC, mais aussi par rapport aussi à l'efficacité thérapeutique de la méthadone par rapport à la substitution. Il est évident qu'en cas d'interaction significative, ben, on peut avoir une baisse d'efficacité de la méthadone en début de traitement de bocéprévir et, à contrario, un rebond à l'arrêt. Donc, il faut surveiller les patients de ce côté-là. Peut-être que la méthadonémie, dans ces cas-là, peut avoir un intérêt aussi, probablement. Voilà. Donc, pour l'instant, prudence, en attendant les données définitives qui ne vont pas tarder.
Juste, je termine. Oui. Dans le même sens, on a des patients qui sont co-infectés, donc de l'HDHC. On sait qu'avec les antirétroviraux, on a mis pas mal de temps pour travailler avec les méthadonémies. Il y a des inducteurs et des inhibiteurs. On a des patients qui ont des tuberculoses avec le problème de la rétroviraux. Des antituberculeux. On sait très bien qu'avec le centre de pharmacovigilance, quand on arrive comme ça avec 3-4 médicaments avec des interactions médicamenteuses, c'est compliqué. Là, pour certains, c'est vraiment un casse-tête. Parce que je sais bien que les études n'ont pas été faites chez les drogues avec traitement de substitution, mais est-ce que ce n'est pas prudent d'avoir une période comme ça observationnelle avec après.
Ah, c'est sûr, il faut être prudent au départ. Oui, il faut être prudent. Il faut attendre les données définitives de.
Ouais.
Bien sûr.
Bien sûr.
Non, c'est pas simple. Il faut attendre les données définitives d'interaction. Voilà. Bien sûr, il faut être prudent. C'est, effectivement, on débute, donc bon.
Ce qui veut dire qu'après, vous nous renverrez des résultats pour les choses qui vont être un peu plus étudiées.
Oui, il y a des essais, des études qui sont faites maintenant sur les pharmacocinétiques de patients usagers de drogue sous méthadone qui ont du bocéprévir. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, est-ce que ça bouge dans un sens ou dans l'autre? Ou est-ce que ça c'est stable chez certains patients? Et puis ça nous permet de nous faire une idée comment il faut suivre ces patients effectivement. Mais ça risque de rester compliqué parce qu'on sait que le même produit peut, chez certains patients, donner une augmentation, chez d'autres donner une diminution, chez d'autres. Donc il faudra finalement rester au cas par cas, à mon avis, de toute façon.
D'autres pas ce qu'on a entendu comme résultat sur le racémie. Parce que
sur quoi?
Ce qu'on a entendu l'autre fois à la conférence sur l'hépatite C chez les usagers de drogue, ouais. C'était quand même que dans le racémique, il y avait une partie de la méthadone, celle qui n'est pas active, qui semblait avoir ce problème d'interaction médicamenteuse, alors que la forme active de méthadone, elle, n'était pas touchée.
Oui, oui.
Donc a priori.
Mais ça, c'est des résultats qui vont être confirmés.
C'est ouais. Pour ça que
je ne peux pas les donner pour l'instant.
Oui. Sur ta réponse, là, je peux m'autoriser une petite pique comme ça, au passage, c'est que la méthadonémie, elle mesure le racémique. Donc, ce ne sera certainement pas par le biais de la méthadonémie, mais par le biais de la clinique.
La clinique, absolument.
Et ça, moi, je suis très attaché à ce qu'on fasse de la clinique et non pas de la méthadonémie. Autant la mesure de QT peut être faite par n'importe quel médecin, il n'y a pas besoin de cardiologue, on doit avoir un appareil, Jacques Ferme à mes côtés, on fait des électros dans notre bureau directement, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de frein, à mon avis, à mettre nos patients sous prétexte d'interaction, à les faire bénéficier de ces traitements dont ils ont absolument besoin. Alors, et l'autre chose, mais tu ne l'as pas dit, mais c'est la question de la buprenorphine. Il n'y a pas d'interaction avec la buprenorphine.
Non, ça, il n'y en a pas.
C'est un message positif pour nous.
Voilà, non, il n'y en a pas. Absolument. Absolument.
Il ne faut pas oublier de le dire aussi. Non. Donc, globalement, les usagers de drogue peuvent bénéficier de ces traitements et doivent être massivement inclus dedans.
Absolument.
Même ceux qui sont génotype 1 et qui doivent être les cibles de ces traitements. Moi, je crois que c'est.
Absolument. Il faut rester. On va avoir des données dans pas longtemps. Donc, bon, on est en novembre, octobre, novembre, on va voir les données début 2012 pour la méthadone. Pour la buprénorphine, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas parlé d'interaction, il n'y en a pas. Pour la méthadone, je pense qu'il faut rester prudent et ne pas foncer bille en tête et mettre 20 patients d'un coup. Je pense qu'il faut faire sa propre expérience. La clinique, effectivement, c'est très important. Bon, quitte à parfois faire une méthadonémie pour une raison ou l'autre. Voilà, il faut rester prudent, je pense, au début.
Plus c'est quoi.
Même si la méthodologie est basse,
si le patient est bien ou le contraire. Oui, si le patient est bien. Non, ça, si on a un doute. Mais bien sûr.
On va abaisser ou augmenter le traitement.
Mais bien sûr.
Bien sûr, bien sûr,
bien sûr. S'il n'y a pas de, d'allongement du QT.
C'est le rassemblement. Faire attention, ils sont plusieurs les deux.
Et en termes de neutropénie, j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être plus d'infections. Est-ce que c'est le cas? Des patients qui prennent des risques, qui s'injectent parfois avec une neutropénie.
Alors, il y a un peu plus de neutropénie.
Oui.
Il y a un peu plus de.
Ouais. Parce que les patients vont être exposés à des risques infectieux, des pneumonies ou autres. Alors qu'on n'avait pas le problème.
Ouais. Alors, il y a un peu plus de neutropénie, mais jusqu'ici, aucune étude n'a démontré de lien chez les patients traités par interféron et ribavirine, en tout cas, entre la neutropénie et l'infection. Voilà. Donc, il y aura plus de neutropénie probablement, mais est-ce qu'il y a plus de risque d'infection? Bon, en théorie, c'est quelque chose qu'on peut concevoir, mais on n'en a pas la preuve, en fait. Oui, bien sûr.
Et pareil, les études ont été faites chez des gens qui avaient une bonne prise de risque, avec des injections actives, des choses comme ça, ou bien parfois.
Oui, absolument. Ça, c'est des patients qui ne sont pas usagers de drogue. Ah, bah, absolument.
Une question sur la règle d'arrêt du traitement. Donc, on dit qu'à S12, on envisage d'arrêter si on a une charge.
100.
Mais un chiffre, c'est un chiffre. Et donc la courbe qu'on observe entre la charge verte de départ et la valeur qu'on a à L12, est-ce que ça ne fait pas en pratique quand même une interprétation un peu plus difficile?
Si, alors après au cas par cas, on peut adapter si tu as une charge virale à 100, 120. Bon.
Non, mais si tu viens de 6 millions
et que
tu es à 2000, est-ce que tu n'as pas envie d'afficher?
Bon, tu peux insister un mois de plus. Après, tu verras si ça remonte ou si ça continue à baisser. Mais bon, ça, c'est les données de la MM. Hein. Donc, c'est les données de la MM. Et puis, bon, après, on adapte, c'est évident. Hein. Thank you.